Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Oui. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Grâce au secours.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
Bonjour à tous et à personne. Encore une fois, bienvenue sur RLP à la bonne question. Nous allons aborder une nouvelle thématique. On va parler des partis, des mouvances, des dogmes, des idéologies. Et pour ça, à chaque fois, on va inviter une personne qu'on va interroger sur sa lecture de son mouvement. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Jacques. Bonjour Jacques.
Bonjour, merci voilà. De votre invitation.
Toujours accompagné de mon compère Stéphane Audus.
Bonjour à tous.
Et de moi-même. Donc pour cette première partie, on va aborder l'anarchie. Donc Jacques est, qu'est-ce qu'on va dire, un expert.
Militant.
Vieux voilà. Militant, très bien. Donc notre sujet, c'est d'informer. C'est directement dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment. Mais là, on va rentrer un petit peu plus sur des pensées qui construisent les ambiances politiques. C'est un petit peu ça. Sur l'anarchie, d'abord, moi, je voudrais commencer par cette question. Quelle différence tu fais entre l'anarchie et les mouvements libertaires ?
Alors, on peut dire que l'anarchie, c'est un idéal. Et comme tout idéal, il est inatteignable. C'est l'inaccessible étoile hein, de Jacques Brel. Et les mouvements anarchistes interviennent sur le terrain social, des publications et de la résistance, bien sûr, à l'oppression en général.
D'accord.
Aux oppressions aussi.
D'accord. Et sur le côté libertaire, je veux bien que...
Alors, il y a eu toute une polémique sur les termes à la fin du 19e siècle, parce que l'idée anarchiste, elle a toujours été décriée et confondue. L'anarchie a été confondue avec l'anomie. L'anomie, c'est le chaos, c'est la loi de la jungle, etc. L'anarchie, pas du tout. C'est une pensée construite et qui se veut constructive par rapport à un changement social et contre la société capitaliste et étatique. Donc du coup, je crois que c'est Jean Grave à l'époque, qui était une personnalité connue dans le mouvement anarchiste, qui avait proposé le terme de libertaire, qui était moins connoté péjorativement à l'époque par l'idéologie dominante, on peut dire. Mais aujourd'hui, il y a des gens, si on leur dit « tu es libertaire », ils vont dire « non, je suis anarchiste ».
L'anarchie, dans l'étymologie, ça veut dire pas de hiérarchie.
Pas de hiérarchie, pas de pouvoir, absolument.
Et c'est peut-être ça qui amène qui fait glisser vers cette idée de chaos, parce que pas de hiérarchie, pas de chef, pas de direction à donner, tracteur, pas
bien
de...
Sûr, ouais.
C'est peut-être ça qui permet de glisser, alors que libertaire... Ouais. On entend derrière un mot...
Liberté, oui, qui est repris à toutes les sauces par tous les politicards ou tous les politiciens.
Et pour toi, l'intention principale, l'intention première de base de l'anarchie, c'est quoi ?
C'est le fait de pouvoir disposer de sa vie, de ses désirs, alors individuels et collectif, si possible, le plus possible, sans opprimer quiconque, de quelque nature que soit l'oppression en question, quoi. Qu'elle soit étatique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit, etc. Élisée Reclus disait c'est la plus haute expression de l'ordre, en fait, l'ordre dans le bon sens, quoi. Et Léo Ferré disait c'est l'ordre sans le pouvoir.
On va glisser un petit peu dans l'histoire.
Oui.
Histoire de comprendre un peu d'où ces mouvances, elles arrivent.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner en quelques dates marquantes un peu le départ et puis
En tout cas, des époques, on va dire, des dates précises. Oui, il y a bien des dates précises, bien sûr, mais bon, c'est pas un mouvement qui arrive comme ça, qui est décrété du jour au lendemain, quoi. Par exemple, pendant la Révolution française, le terme arrive quelquefois à la Convention. Quelqu'un comme Varlet, par exemple, qui est député, il propose le mandat impératif. C'est-à-dire que le délai, une personne peut être déléguée du fait de ses compétences, de ses capacités reconnues. C'est pas lui qui va s'imposer, bien sûr. Sauf que le mandat qui lui est donné, on va dire, par la collectivité, quelle qu'elle soit, il va être contrôlé à tout moment. Et c'est pas un mandat qui va lui apporter une once de pouvoir, ni une once de gain matériel, de gain économique, bon, etc. Et lorsque le mandat est achevé, ben, la personne revient telle qu'elle était initialement. Et déjà, ça, c'est une idée très importante chez les anarchistes. Il y avait aussi un autre député qui s'appelait Anacharsis Klotz, qui a avancé aussi des idées anarchistes, on va dire, sans se réclamer. Il y a eu le mouvement des enragés avec Jacques Roux, etc., déjà pendant la Révolution française, quoi.
Est-ce qu'il y a une date antérieure ? Est-ce que tu le vois bien avant, quand même,
dans l'Antiquité, par exemple?
Dans l'Antiquité, je ne vais pas raconter de bêtises, mais il y a eu des mouvements insurrectionnels d'esclaves ou Spartacus, par exemple, quoi. Avec qui ont servi après de référence aux spartakistes allemands, qui eux n'étaient pas des anarchistes mais étaient des marxistes anti-autoritaires, rien à voir avec les staliniens, bon, bien sûr. Et oui, donc il y a des exemples un peu de cet ordre dans l'histoire. Alors dire qu'ils étaient le terme n'était pas avancé comme ça, même si les pratiques ressemblaient bien sûr fortement.
Et qu'est-ce qui le fait apparaître, en fait?
Alors c'est, on va dire,
tu parles de la Révolution française. Ouais.
C'est Pierre-Joseph Proudhon, le premier, connu en tout cas, bon, qui est de d'essence prolétarienne au départ, et qui va le premier écrire une théorie avec son ouvrage qui a été contesté après par Karl Marx, hein, qui s'appelle Philosophie de la misère. Auquel Marx va répondre par misère de la philosophie, évidemment, qui le premier va poser les bases d'une théorie de l'anarchisme, avec aussi un livre très important, Qu'est-ce que la propriété ? Et l'expression qui est connue, la propriété, c'est le vol qui lui est attribué, mais on pourrait délayer cette idée-là.
Et toi, tu fais démarrer la réflexion intellectuelle ou la formation en société du mouvement, des mouvances anarchistes, tu le fais partir de cette époque-là. Ouais. Okay. Mais c'est quand même...
Les années 1830, à peu près.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture autour de ça avant Proudhon, ou il y a plutôt des faits et,
En 1831, les Canuts de Lyon s'insurgent et hissent le drapeau noir. C'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'un drapeau noir est hissé avec « vivre libre en travaillant ou mourir en combattant ». Bon, « vivre libre en travaillant ». Mais bon, à l'époque, ça avait un sens, parce que c'est des gens qui perdaient leur gagne-pain, qui étaient effectivement, ils travaillaient, c'était des artisans individuels, ils travaillaient chez eux, etc., dans les soirées, etc. Et la mécanisation avec le métier à tisser, jacquard, etc., qui arrivait, allait les priver, justement, de leur gagne-pain. Il y a eu le mouvement des ludites en Angleterre. Les ludites cassent les machines. Parce que c'est le début de l'industrie.
C'est quelle période, ça, les ludites ?
C'est pareil, hein, ces années-là, 1830-1840.
Pause musicale avec un morceau de Louis Slash.
La bonne question.
L'Estaca.
RLP.
Ma vie si jette en parlant de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfent mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà. no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt temps ja, les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cas i estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Sisset ja no diu res, mal vent que se'l va emportar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant de Sisset. Lo darrer que em va ensenyar, si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 de deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
De retour dans la bonne question sur RLP.
J'avais une petite question. Plus qu'une idéologie structurée, l'anarchisme n'était pas un cri du peuple, une réaction épidermique à la révolution industrielle et à l'apparition d'un prolétariat déraciné?
Oui, c'est il y a une...
L'action avant l'idéologie, la réaction avant
Il y a une réaction de cet ordre, parce qu'il y a des gens qui vont se trouver privés d'un mode de vie, d'une culture paysanne. Ils vont se retrouver dans des villes sordides, mal logées. C'est l'époque où Victor Hugo parle des enfants de 5 ans qui travaillent dans les filatures, qui se font couper les bras. C'est l'époque où les femmes vont rentrer à l'usine. Il a été dit aussi que pour certaines, ça a pu être aussi une autre forme de socialisation, de société, d'émancipation, entre guillemets émancipation. Mais oui, peut-être aussi. Mais il y a eu un changement culturel. L'anarchisme va vraiment se développer au moment de la Commune de Paris. avant la Commune de Paris, il y a les Proudhoniens. Hein. Proudhon, ses idées vont faire son chemin. Alors, au passage, quand même, on ne va pas faire la géographie totale de Proudhon, qui malheureusement a commis des écrits antisémites et qui était extrêmement machiste.
Ah oui.
Voilà. Et ouais, disait les femmes doivent rester chez elles, elles sont incapables de réfléchir, de conceptualiser, etc. Donc, il faut quand même, voilà. Même s'il a pu dire des choses intéressantes et qu'il est quand même à l'origine de... Voilà.
Mais je trouve que c'est intéressant ta remarque parce que plein de personnages de l'histoire, et je ne sais pas si ce n'est pas ça qui donne une image infantile de l'anarchiste. On prend l'exemple de la Boétie qui écrit La servitude volontaire, qui est un petit bourgeois qui se plaint et qui met en évidence comment on devient servile et comment on accepte d'être servile et qui va se retrouver après au Parlement de Bordeaux. Oui. Et du coup, on va dire, oui, mais cette complainte qui a été écrite à 17-18 ans, est-ce que ce n'est pas un acte de jeunesse? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'infantile comme comportement? Et je pense que Proudhon aussi...
En termes de comportement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre qui est extraordinaire. Hein. Le discours de la servitude volontaire, il est extraordinaire.
Ces trois volets qui sont présentés, de l'animal jusqu'à... C'est un très, très bon livre que...
C'est un ouvrage, d'ailleurs.
Je t'en conseille.
C'est aussi une référence, le discours de la servitude volontaire.
Est-ce que ça ne donne pas aussi les premières empreintes d'une image un peu juvénile, irresponsable?
C'est-à-dire qu'à l'époque, ce qu'il disait était tellement... allait tellement à l'encontre de la société... Renaissance.
Je dis ça parce que je pense que si les deux l'avaient écrit à 45 ou 50 ans, la portée des textes n'aurait pas été la même. Notamment pour la servitude volontaire, mais aussi pour Proudhon, parce qu'effectivement, il fait un texte, il fait plusieurs textes pour annoncer les mouvances anarchistes, pour la pensée anarchiste. Mais après, il a des comportements, comme tu disais, ou des écrits qui, dans sa maturité...
Qui sont très fâcheux.
qui sont plus que fâcheux, qui représentent...
Mais par exemple, en 1848, il est élu au Parlement, et il ne va pas y rester, parce qu'il va comprendre que ce n'est pas là. Les choses vont changer.
J'ai juste une
changer.
Petite remarque méthodologique. Oui. Il ne faut pas se fourvoyer. En histoire, il faut éviter de juger des faits passés, des comportements passés, à l'aune du temps présent. Ce qu'on fait maintenant systématiquement, ce qui est vraiment épouvantable. Je prends un exemple. Il y a un poème de Rudyard Kipling qui s'appelle « Le fardeau de l'homme blanc ». Je l'ai fait lire à des personnes aujourd'hui. Ils m'ont dit « Ah, c'est une abomination et tout ». Mais j'ai essayé de leur expliquer qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, que certes, vu de nos yeux actuels, c'est une abomination, mais qu'à l'époque, c'était pas pire qu'autre chose.
Ça colle à l'époque.
Ça colle à l'époque. Voilà,
je rebondis sur
personnes de leur époque.
Je rebondis sur ce que Jacques dit, parce que moi, je pense qu'il faut se servir du passé, mais il ne faut pas en créer des références. Il y a des choses qui ne peuvent pas être des références. On peut s'en servir en disant il y a de l'expérience autour de ça, mais ça ne doit pas être le départ de comment on va construire aujourd'hui les choses. On ne peut pas prendre quelqu'un comme Proudhon dans des réflexions aujourd'hui. Comment on va construire le mouvement libertaire. On ne peut pas prendre des personnages comme ça. C'est en ça où je rebondis dessus.
En termes de personnages, certainement.
C'est comme la Boétie. La Boétie, moi j'ai lu La servitude volontaire, c'est un livre qui m'a marqué, que je trouve hyper intéressant intellectuellement, mais moi qui suis dans l'éducation populaire, jamais je vais amener ça dans une des formations que je fais. Ce ne sera pas un point de départ de la réflexion.
Du fait du personnage, de la teneur de ce qu'il écrit.
Par contre, ce qu'il y a dedans, la teneur de ce qu'il y a dedans, je vais pouvoir m'en servir, notamment pour accompagner les gens à comprendre qu'ils peuvent devenir serviles et accepter d'être serviles.
Il vaut mieux partir de paradigme plutôt que de personne.
Oui, c'est vrai. Très bien dit.
Très juste. Bravo.
Très bien dit, Stéphane.
D'accord.
Donc, reprenons sur cette...
Voilà. Donc... La Commune de Paris va vraiment être un tournant, quoi. Parce que là, il va y avoir une répression non seulement à Paris, mais un peu dans toute la France. Hein. Même à Périgueux, il y a des événements marquants autour de la Commune de Paris, par exemple.
Tu fais partir donc la naissance de l'anarchie au 18e, fin 18e, début 19e. On va retrouver des marqueurs et des textes autour de ça. Oui, ça ne oui, veut pas beaucoup. Dire qu'il n'y a pas eu des actes avant.
Oui, voilà, c'est ça, qui pourrait se référer à ça sans citer les mots. Quoi.
Et depuis, alors ?
Alors, depuis, il y a eu beaucoup de choses. Je me relivre. La Commune de Paris, oui, donc, cette répression terrible va amener ce qu'on appelle la période de la propagande par le fait. C'est-à-dire la période des attentats anarchistes, et qui ont coûté la vie à plusieurs têtes couronnées en Europe, et même au président de la République française, Sadi Carnot, qui est assassiné donc, par un anarchiste. Cette période entre 1892 et 1894 en France, elle a commencé avant, en fait, en Europe, dès les années 1860-1870. Il commence à y avoir des attentats. Et en 1881, au Congrès international anarchiste de Londres, le concept de propagande par le fait est prôné. Alors, la propagande par le fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par l'attentat, le sabotage, ce qu'on appelle la reprise individuelle, c'est-à-dire le vol, etc., les anarchistes vont faire trembler le pouvoir, vont essayer de faire trembler le pouvoir pour changer cette société. Mais c'est une réaction aussi à la répression et à une espèce de désespoir issu de la Commune de Paris.
Alors, à ce sujet, justement, j'ai encore une vilaine question.
Mais je t'en prie.
Alors, de Ravachol à Jules Bonneau, en passant par Auguste Vaillant.
Oui.
Est-on en droit de penser que la violence politique aveugle fait partie de l'ADN idéologique anarchiste ? Le nihiliste n'est-il pas sous-jacent ?
Alors, voilà. Vaste question. Oui, non, mais j'ai commencé parce qu'il faut être honnête, il faut dire les choses. Ce que je veux dire en préambule, c'est que ces anarchistes qui ont pratiqué la propagande par le fait n'ont pas forcément été... mandaté par le mouvement pour le faire, bien que, à ce fameux congrès international de Londres, le concept de propagande par le fait ait été quand même accepté
ouais.
Et même promu, on va dire. Mais très vite, dans le monde anarchiste, on s'est rendu compte que ça allait être difficile.
Ça allait être une impasse.
Ça allait être une impasse. Parce qu'il y a eu aussi le mouvement nihiliste russe, en effet, qui est un peu antérieur, qui, lui, s'est attaqué aussi à l'autocratie
Ça interroge cette décision, tsariste. Quand même, parce que dans l'anarchie, il y a quand même l'idée de ne pas avoir de hiérarchie et de ne pas avoir de pouvoir. Sauf que l'acte violent, c'est quand même poser une domination volontairement.
C'est vrai.
L'acte violent, c'est quand même poser un rapport de force pour pouvoir le gagner et du coup se poster.
Mmh. Oui, mais par rapport...
Dans un état hiérarchique.
Ouais, mais par rapport à des situations de misère, de révolte, pour beaucoup de gens, ça a été le contraire de la résignation, ça a été le contraire de tendre le cou pour prendre. Alors eux, ils ont pris le couperet, ils sont Émile Henry, Ravachol, bon, ils sont passés à la guillotine. Alors l'affaire Bonneau, c'est un petit peu plus tard, c'est un peu différent, c'est 1911-1912. Alors effectivement, ce sont des anarchistes qui sont regroupés autour d'un journal qui s'appelle L'Anarchie, qui est tenu par Riret Maître Jean et Victor Kibalchich, plus connu sous le nom de Victor Serge, voilà, l'écrivain Victor Serge, et qui eux vont se réclament de l'anarchisme, mais vont effectivement dériver après
vers le banditisme,
vers le banditisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mouvement anarchiste, ces gens-là, même si beaucoup de gens n'étaient pas d'accord, jamais ils n'ont été stigmatisés publiquement. Il y a eu des débats internes, ça c'est sûr. Jamais ils n'ont été désavoués, parce qu'à l'époque, le mouvement anarchiste est soutenu par des écrivains, par des peintres. Là, je pense aux peintres.
J'ai une citation à ce propos sur les attentats. Bien. Je n'ai plus la référence de la personne. C'est un écrivain qui dit « Qu'importe les morts, ce qui compte, c'est la beauté du geste ».
C'est Mallarmé, Stéphane Mallarmé. Ouais. Oui, Stéphane Mallarmé, qui n'est pas rien. Mais des gens comme Octave Mirbeau, comme Bernard Lazare, évidemment, ils ne le pratiqueraient pas, eux, mais ils ont une forme de compréhension.
Il y a peut-être aussi une forme de romantisme.
Alors aussi, bien sûr, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Puis ça appartient à une culture plus qu'à d'autres. Alors voilà, je pique un peu encore sur cet aspect de violence, parce que c'est devenu un peu une des identités de l'anarchie, fausse ou vraie.
Oui, mais fausse, mais qui a été... Non, mais que le mouvement anarchiste a porté comme un stigmate jusqu'à nos jours. Hein. Aujourd'hui, quand on dit c'est l'anarchie, ça veut, pour la plupart des gens, ça veut dire c'est le bordel, c'est le... Ben non, c'est... Non. C'est pas ça.
Est-ce que pour avancer dans l'histoire, tu peux nous donner au moins deux événements entre le début du XXe et maintenant
qui sont, y a un
qui permettent de faire changer le mouvement ou de le faire apparaître, ou une des évolutions?
Oui, alors il y en a... Il y a beaucoup de choses.
Au
mais...
moins deux.
Ouais, ouais.
Je peux peut-être t'aider par une question.
Vas-y.
Alors, je m'excuse, j'essaie de les placer tant que je peux. De Nestor Makhno à l'expérience de Barcelone, aucun système libertaire pérenne n'a pu voir le jour.
En effet.
Alors l'anarchie ne serait-elle pas qu'une utopie inaccessible à la condition humaine?
Oui. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'anarchie, c'est un idéal. C'est un guide, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais, évidemment. Sinon, ça ne s'appellerait pas un idéal. Alors, Makhno, oui, l'expérience ukrainienne qui a été capitale pour le mouvement anarchiste et pour la révolution russe. Je pense que sans Makhno, les troupes blanches reprenaient Petrograd. La Makhnovtchina, qui était le nom du mouvement anarchiste, elle coupe la route, elle s'attaque à Wrangel, à Denikin, etc. Et alors pourquoi cette expérience extraordinaire, qui est plus qu'une expérience, qui est un mouvement social, pourquoi elle échoue? Parce qu'en face, il va y avoir le pouvoir d'État, bolchevique à l'époque, donc autoritaire, qui va comprendre que ces masses paysannes ukrainiennes, avec leur aspiration à la liberté et à changer la société, sont dangereuses pour le pouvoir d'État. Et donc, il va y avoir, l'armée rouge va réprimer, sur Trotsky d'ailleurs, va réprimer la Makhnovtchina. Makhno, il passe la frontière avec 20 cavaliers. Il va connaître toutes les prisons d'Europe, les unes derrière les autres.
France. Il va finir en France, ouvrier dans je ne sais quelle usine.
Oui, chez Renault. Il va travailler chez Renault. Il a...
Il n'y a pas une chanson là-dessus?
La Makhnovtchina.
La fameuse Makhnovtchina d'Étienne Rodagy. Sur un air d'ailleurs traditionnel russe. Ouais. Parce que sur le même air, il y a aussi des chansons de l'autre bord. c'est drôle.
D'ailleurs, on va en passer un morceau. RLP. On va se faire une petite pause. La Makhnovtchina,
la bonne
des drapeaux sont noirs dans le vent. Tu se sois l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Seul avec
De retour sur RLP, la bonne question. En compagnie de Jacques, nous étions sur l'histoire.
Il y a cette période qu'on a appelée la guerre d'Espagne, 1936-1939. Nous, on parle plutôt de la révolution espagnole, puisque les anarchistes vont y jouer un rôle capital. Ils vont jouer un rôle capital avec deux organisations, la FAI, Fédération anarchiste ibérique, et la CNT, Confédération nationale du travail, qui regroupe plus d'un million 500 000 adhérents. Hein. L'histoire de l'anarchisme espagnol, elle est ancienne parce que les anarchistes, pendant plus de 50 ans, ils ont préparé cette révolution sociale. Parce que l'Espagne vit sous la férule de l'Église et des nobles, enfin de la noblesse espagnole, hein, et donc de l'État, évidemment, qui défend tout cela. La révolution sociale va éclater en 1936 parce qu'un gouvernement républicain est élu, un gouvernement de gauche, 1936, qui, pour la première fois d'ailleurs, certains anarchistes vont se déplacer pour aller voter, parce que ce gouvernement de Front Populaire dit que s'il est élu, il va libérer les prisonniers politiques, qui sont des dizaines de milliers en Espagne, dont essentiellement des anarchistes. Et la révolution sociale éclate, des collectivités se forment en Aragon, surtout en Aragon, mais en Catalogne aussi. En Catalogne, les ouvriers prennent les usines, socialisent les usines, ils vont socialiser les transports, les bus, même les taxis, même les coiffeurs, même les... Enfin, c'est un mouvement énorme qui va se développer, qui, sous couvert d'antifascisme, les anarchistes vont être amenés à participer au gouvernement de la République. Ça leur sera reproché sur le moment, ça leur sera reproché après. Ils se sont fait avoir, en quelque sorte, quoi. Eux ne cherchaient pas le pouvoir, les autres cherchaient le pouvoir en s'appuyant sur les forces sociales de l'anarchie.
D'accord. Mais on s'aperçoit, en fait, quand tu donnes l'explication, ta lecture de l'histoire de l'anarchie, on s'aperçoit que c'est très international comme mouvement.
Oui, bien sûr.
C'est des réflexions qui ont touché un petit peu toutes les populations.
Aux États-Unis, par exemple, le mouvement anarchiste a peut-être été le mouvement anarchiste le plus important au monde, sauf qu'il a été, laminé totalement par l'État, pour le coup, américain. Et par exemple, en 1886, à Haymarket Square, les anarchistes vont être arrêtés.
Est-ce que c'est un anarchisme vraiment états-unien à l'origine ou importé?
Non, il était importé.
D'accord.
Il était importé par les Allemands, par les Italiens.
Ah, oui, d'accord.
Essentiellement, d'ailleurs.
D'accord. Et encore une dernière date là, qui se rapproche de nous.
En 1895, la CGT est créée à Limoges par les anarcho-syndicalistes. Ouais,
donc voilà. On va passer... tu avais un petit...
Oui, voilà. J'ai deux questions maintenant qui me tiennent à cœur, puisque les autres ont été évoquées au fur et à mesure, au fil du temps. La première, de libertaire à libertarien, il n'y a que quelques lettres de différence. Mmh. Idéologiquement parlant, le système libertaire porté à son paroxysme ne rejoint-il pas la pensée libertarienne ou vice-versa? Jouir de la vie sans entrave sociale.
Non. Les libertariens, donc, c'est un mouvement qui s'est développé aux États-Unis, hein, sur des bases du libéralisme poussé à outrance, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté, eh bien, on dispose de la liberté d'exploiter au maximum les individus, de les renvoyer quand on n'a plus besoin d'eux, certes en les tutoyant et avec le sourire, parce que aux États-Unis, c'est drôle. Et donc, les libertariens, ben, c'est des gens qui n'ont qu'une morale, c'est celle du fric et celle du temps. Ça n'a rien à voir avec l'idée libertaire qui, elle... se réfère à l'anarchisme, c'est-à-dire la liberté individuelle, mais ma liberté ne s'épanouit que si elle contribue à faire épanouir la liberté d'autrui. C'est Bakounine qui a dit ça. C'est pas la traduction exacte, mais c'est l'essence.
Il existe des branches libertariennes, pas que j'approuve ces gens-là, mais j'ai un petit peu posé la question, qui sont limite survivalistes, ces gens qui veulent vivre en autarcie.
Oui, oui.
Donc, n'ont pas la prétention à avoir à accumuler des richesses et tout. Par contre, la grande différence, je pense, par rapport à nos anarchistes locaux, c'est que eux, la foi en Dieu est prégnante chez eux.
Ouais.
Mais ce sont des gens qui vivent en autarcie, dont voilà, je veux pas de l'État, ni de l'État fédéral.
Mais je sais. Voilà. Oui, ils sont opposés à l'État parce que l'État pourrait avoir un contrôle sur sur l'économie. Voilà. Etc. Oui, bien sûr.
Mais je parle. Il y a des gens dont le moteur est l'argent. ces gens-là, de ce que j'ai vu, des extraits que j'ai vus de ces personnes-là, sont plus voilà, des sortes d'ermites qui vivent en famille.
Je sais que ça existe, les survivalistes. Ouais. Bah, c'est des gens qui pensent à leur... Excuse-moi, qui pensent à leur gueule, d'abord. Quoi.
Bah, ils ont un référent qui a été président, quand même, des libertariens dont tu parles.
Oui.
Oui, anciennement.
Oui, c'est ça. Et on va pas le citer.
Est-ce que c'est comme Voldemort, on dit pas son nom.
On va pas citer les grossièretés comme ça, au micro.
Peut-être futur.
Ouais. Et alors là, hélas, toutes mes condoléances pour le peuple américain.
Et là, j'ai une question, mais alors vraiment, là, c'est d'ordre théorique, faisant appel vraiment au propre de l'homme. L'homme est un animal social, nous dit Aristote. Mm-hmm. Cette sociabilité fait partie de l'ADN de notre espèce. Alors comment construire une organisation sans ce léviathan que décrit Hobbes, au risque que l'homme ne devienne un loup pour l'homme ? Faut-il reconstruire l'homme ? Le rééduquer ou miser sur l'apparition d'un homme nouveau, une sorte de surhomme nietzschéen. Comment permettre à l'individu de transcender sa condition humaine ?
Alors, pareil, vaste question qui touche à la philosophie.
De façon plus simple, le fait qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait des meneurs, des leaders, des suiveurs, je crois que c'est intrinsèquement lié à l'espèce humaine, dans différentes proportions. C'est pas quelque chose dont on peut se défaire.
Alors, chez les anarchistes, la réponse que je pourrais faire, enfin une partie de la réponse que je pourrais faire modestement, hein, parce que c'est ce que je disais à l'extérieur, on a quelquefois plus de doutes que de certitudes, c'est que dans l'idée anarchiste, on reconnaît l'autorité de compétence, si tu veux. Tu vois ? Et cette autorité de compétence, c'est quoi ? Ben, c'est par exemple notre ami là, qui nous fait la technique et tout. Bon, moi, je suis devant une table de mixage et tout, je ne sais pas faire. Voilà. Et ça, on reconnaît l'autorité de compétence. Il y a des gens, tu as des gens qui savent faire des choses, qui ont des capacités pour faire ceci, cela. Mais ce qu'on refuse, en tout cas dans nos pratiques et dans nos idées, c'est que ces autorités de compétence que l'on reconnaît confèrent aux personnes un pouvoir sur autrui, si tu veux, et une domination. Donc, tu vois, quand tu dis qu'il y a une essence de... Chez l'humain, moi, je crois pas. Je suis plus... la vie, elle est complexe. Tu rencontres telle personne, tu es éduqué de telle manière, tu es dans tel milieu, donc tu vas développer... Tu vois ?
Je suis d'accord pour affirmer que beaucoup de l'être est une construction sociale. Hein, je ne veux pas renier l'évidence. Mais n'oubliez pas que... À la base, on est quand même biologiquement programmé pour un certain nombre de choses. Qu'il n'y a pas... le bon sauvage n'existe pas au sens...
Sans doute.
On est un animal social. Oui. On est fait pour vivre d'accord. en société. On a été programmé pour ça.
Ça, d'accord, oui.
Hein, jusque-là, pense... Oui. Après, est-ce qu'on deviendra et tout ça ? Je suis d'accord, c'est une construction sociale.
Dans l'idée anarchiste, il y a ce que... L'individu est premier. Il est considéré comme étant premier dans la vie. Mais cet individu, il est immergé dans un tissu social qui lui tient à cœur, dont il tient compte, mais qui ne doit pas écraser l'individu.
Y a-t-il des pratiques qu'on retrouve en constance dans toute l'histoire de l'anarchie ? Alors, s'il y a des choses vraiment qu'on va retrouver ?
Par exemple, aujourd'hui, on assiste, en particulier dans la jeunesse, à des aspirations, à l'autonomie. Ils vont à la campagne, ils vont devenir maraîchers, charpentiers, avec une idée de faire commun, de faire collectif. Donc ça, c'est une idée qui traverse l'anarchisme. Les milieux libres, par exemple, au début, ce qu'on appelait les milieux libres, au début du fin 19e, début 20e, c'est des gens, par exemple, qui vont pratiquer le naturisme, la sexualité libre, le polyamour, la contraception, qui à l'époque est réprimée, l'éducation aussi, sur l'éducation. Les anarchistes avec Sébastien Faure autour de la ruche ou Paul Robin avec l'orphelinat de Sampuis, etc. Ils ont pratiqué des pédagogies libertaires. Et ça, aujourd'hui, c'est des idées qui reviennent beaucoup dans la société. Alors, elles ne vont pas se référer forcément à l'anarchie ou à l'anarchie. Mais c'est des choses qui, culturellement, ont fait leur chemin et qui sont issues essentiellement de l'idée, de l'idéal, je dirais, libertaire. Quoi.
Ah ouais. Oui, ça, dans l'éducation populaire, on dit souvent que quand on a compris ce qu'était l'éducation, on devient libertaire. Quand tu comprends l'éducation, tu comprends que toi, tu n'éduques pas les autres, que c'est les autres qui vont s'éduquer du monde. Du coup, c'est ça, c'est forcément un espace libertaire.
Par exemple, on parlait de Proudhon au début, bon, avec toutes les réserves sur le personnage. Il avait appris à lire avec l'enseignement mutuel. Alors c'est un enseignement qui, au départ, est parti d'un constat de misère. Je crois que c'est un pasteur protestant. Il s'était rendu compte donc qu'évidemment, le manque de connaissances et d'éducation entretenait cette misère. Et donc il avait développé une pédagogie qui s'appelait l'enseignement mutuel, partant du principe que les enfants avaient des connaissances, les plus grands apprenaient aux plus petits. Alors, les plus grands, on leur apprenait à lire, s'ils ne savaient pas lire, mais après, eux, ils faisaient le relais avec des plus jeunes.
Ça a été repris par l'éducation nationale, quand on voit dans les zones rurales des classes à multiniveaux, et le bénéfice qu'en tirent les enfants.
Les classes uniques,
Oui, les classes uniques.
Pour l'enseignant, c'est très difficile, la classe unique, mais c'est formidable.
Et on appelle ça l'apprentissage par les pairs.
Dans les campagnes,
toujours. PAIR.
Ça s'appelait l'enseignement... On avait appelé ça l'enseignement mutuel.
RLP, la bonne question.
On part souffler deux minutes avec un original de Bella Ciao et on revient tout de suite.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
De retour dans La Bonne Question sur RLP.
RLP.
Est-ce que du coup, dans la politique actuelle, on arrive à aujourd'hui, est-ce qu'elle utilise des choses de l'anarchie?
Alors, on entend en tout cas dans les idées, des références à prenez vos affaires en main, etc. Oui, on l'entend, notamment la France insoumise, par exemple. Oui, c'est vrai. On entend, des références. Elles ne sont pas nommées comme telles. On ne va pas te parler du mandatement impératif de Varlet, par exemple. Mais on va peut-être te parler du mandatement impératif, par exemple, tu vois, le fait du contrôle des délégués, etc. On va te parler de démocratie directe. Alors après, le problème, c'est que c'est quand même souvent dévoyé par la quête du pouvoir politique. Tous les débats sur la libération sexuelle, etc., c'est des débats qui ont été initiés par le mouvement anarchiste. Il y a eu à Bordeaux, les années 50, il y a eu l'affaire des vasectomisés, par exemple. Des militants anarchistes qui se sont fait vasectomiser en guise de contraception masculine. Ils ont été poursuivis devant les tribunaux, etc. Aristide Lapeyre, pour ne pas le citer, il est décédé maintenant.
Oui, il y en a eu d'autres, notamment sur le travail et les femmes aux droits du travail.
Voilà.
Il y a une origine à un mouvement qui s'appelait les pétroleuses pendant la Commune.
Oui, puisqu'on a dit que c'était les femmes qui avaient incendié les monuments de la mairie de Paris, etc. Oui, c'est un terme après qui est devenu une revendication, quasiment une revendication féministe. Quoi.
Ah, oui. Edith Thomas qui a fait un bouquin sur les pétroleuses. Est-ce que pour toi, Est-ce que le mouvement anarchiste, il est vraiment populaire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est populaire?
En tant qu'organisation, non. Renommée, je ne pense pas, si tu veux, accessible. Il l'est, si on s'y intéresse et si on veut, tout le monde est bienvenu, évidemment. Mais je ne parle pas dans la capitale, où là, bon, les anarchistes ont une librairie, ils ont une radio libre, hein, radio libertaire. Hein. Dans les grandes villes, oui, il y a une... Bon, après, à l'échelle du territoire, le monarchiste est assez peu connu, quoi.
Moi, j'ai observé qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements, des intentions, des gestes, plutôt issus d'une pensée anarchique, mais qui ne savent pas que ça l'est, des fois même qui ne veulent pas.
Non, attends, moi, je suis pas anarchiste. Ils refusent l'idéologie, ça, je le comprends, mais il ne faut pas penser... que l'anarchisme est une idéologie, ce n'est pas un système clos, ce n'est pas, on parlait de dogme, mais non, ce n'est pas, l'idéologie c'est un système qui est clos, ou qui a des outils qui aboutit de toute façon à un moment ou à un autre à cerner suffisamment, non, c'est un système qui est en doute, en évolution, en questionnement, et en, oui.
On peut le dire aux auditeurs et aux auditrices, tu peux être anarchiste avec deux, trois amis dans ton coin et monter une action sans avoir à rentrer dans une communauté ou dans un groupe.
Évidemment.
Ou prendre une carte de parti.
Oui, absolument, oui, on ne fait pas de carte.
Mais c'est important de le dire. Parce que
s'il y a la CNT, au syndicat,
il y a beaucoup de mouvements, en fait, il y a beaucoup de mouvements comme ça qui demandent à ce qu'on rentre dans un cadre et qu'on soit repéré de ce cadre.
Je sais bien,
qu'on rentre dans un moule.
Personne n'est à leur état.
Alors, pourquoi on utiliserait aujourd'hui le mouvement anarchiste? Pourquoi on en aurait besoin, à ton avis?
On en aurait besoin parce que je pense que le monde va très mal, très très mal.
Alors, en quoi on en aurait besoin?
On en aurait besoin pour repenser une organisation sociale de type, je dirais, fédéraliste, même si le mot est un peu galvaudé avec l'exemple suisse, mais c'est-à-dire que des gens puissent s'organiser sur un territoire, sur un lieu qu'ils auraient choisi librement et dont ils ne seraient pas prisonniers, pour organiser une vie sociale égalitaire, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de domination économique et qu'il n'y ait pas d'exploitation de la force de travail au bénéfice d'un petit groupe d'individus. Oui, on en aurait besoin, oui. On en aurait besoin pour partager les richesses, pour vivre mieux, pour comprendre l'importance du milieu naturel dans lequel on vit et du respect qu'on lui doit... et qui nous donne quelquefois, etc. Oui.
Est-ce que... Moi, je me posais la question en préparant l'émission. Est-ce que ce n'est pas une pièce, l'anarchie? Est-ce que ce n'est pas une composante de l'humanité, l'anarchie? Et est-ce que ça ne s'accorderait pas avec un autre mouvement, avec d'autres partis, avec d'autres idéologies?
Mon point de vue, c'est que c'est un paradigme. Et les paradigmes sont à manipuler pour essayer de dessiner une figure de la société. Ça fait partie d'un des paradigmes. Mais il ne faut jamais, contrairement à ce qu'on fait souvent maintenant, prendre un paradigme et de tout dessiner autour de ce paradigme. Il faut faire cohabiter ou, des fois, des répulsions de paradigmes. On essaie de les associer les uns aux autres pour avoir une vision globale de notre société, de notre organisation. Et l'anarchie est un paradigme qui me semble tout à fait acceptable en tant que paradigme.
Oui. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. On ne mettra jamais tout le monde d'accord sur tout. Mais... on peut, chaque individu, chaque groupe, peut avancer ce qu'il pense et essayer de trouver un modus vivendi pour un commun. Tu vois, nous, par exemple, dans notre milieu, on essaie de fonctionner au maximum au consensus. On ne fonctionne pas au vote majoritaire. Ce n'est pas 50% plus 1. Non. On n'est pas d'accord sur un sujet dans un groupe. On va discuter, on va revenir, on va, etc. Essayer de trouver un
compromis.
Un espèce de compromis, mais qui soit acceptable par tout le monde. Ouais, et viable. Si une partie du groupe n'accepte pas, malgré malgré voilà cette discussion là, on va pas le stigmatiser, on va pas lui couper les ponts, on va pas il défendra son point de vue de façon autonome,
oui,
tant
et
pis,
puis, c'est, et puis il pourra partir mais, dans un autre
éventuellement et partir dans un groupe ou dans une autre tout à fait.
Mais est-ce que ça pourrait s'accorder, je dis ça parce que en France par exemple on a oublié le fait qu'on était un pays libéral et communiste en même temps.
Ouais.
Je rappelle que le système de répartition, les retraites, la sécurité sociale, tout ça, c'est un système communiste.
Oui, en tout cas, social. Ouais.
Social. Et on a un côté, on a un système libéral. On regarde les entreprises, le système qui est entreprises. Et pourtant, tu vois.
Avec les gens à tête de l'État actuellement.
Oui, dans le même pays, on a les deux.
Oui, oui.
Bon, il y en a un qui essaye de déglinguer l'autre selon le gouvernement qu'on a, parce que ça fonctionnait au départ et ça fonctionne.
Et vice-versa, vous les deux, c'est un rapport de force, mais
c'est vraiment le gouvernement qui fait qu'il y en a un qui cogne sur l'autre, en fait. Hein, si on revient un peu en arrière, eh ben, on s'aperçoit que le communisme tapait un peu plus dans l'après-guerre sur le libéralisme et qu'aujourd'hui, les gouvernements étant libéraux, eh ben, ils tapent sur
les aspects sociaux
et de partage. Tu vois, on a réussi à emboîter en France deux mécanismes. Mmh. Alors, est-ce que l'anarchie, ça pourrait pas aller avec un autre mécanisme?
Oui.
Je pense que une des faiblesses de l'anarchisme dans ces luttes politiques, c'est qu'il n'a pas la faculté de se grouper et de se défendre par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les communistes, ils vont faire corps. Les gens de droite vont faire corps. Les anarchistes, par essence, auront du mal à faire corps.
Oui. On est très mauvais sur ce terrain-là, c'est évident. Et... oui, c'est pas notre... Mais parce qu'on fonctionne pas sur ce terrain-là, si tu veux.
C'est pas l'ADN.
Non, on fonctionne pas sur le terrain du pouvoir, de vouloir accéder à...
Et de forcément devoir
à la
se
politique ressembler. Politicienne. On n'est pas sur ce terrain-là.
Mais du coup, cette autorisation à être... c'est pas dissous, mais à ne pas devoir suivre forcément le reste du groupe, cette autorisation, parce que c'est quand même une autorisation.
Oui,
c'est dans la.
Mais c'est cohérent, hein, par rapport.
C'est cohérent, oui, oui.
Par rapport à notre idée de.
Mais on peut se poser la question de l'avenir politique, du coup, politiquement, quel avenir l'anarchie ça a ?
Politiquement, ça dépend de ce qu'on entend par politiquement. Si on entend politiquement au sens noble, je pense que ces idées-là, elles ont un avenir parce que elles sont. Je pense qu'elles doivent elles peuvent correspondre à l'aspiration d'un maximum de gens à une autre vie, à une vie plus égalitaire, plus sympathique, je dirais, plus empathique, plus conforme au respect qu'on a...
Si je te comprends bien, vous n'avez pas forcément la prétention d'être un système politique qui prendra le pouvoir, mais d'être une source d'inspiration dans une réflexion profonde sur la vie politique.
Plutôt.
Parce que je pense que, oui, effectivement, prendre le pouvoir sous une forme anarchique, je crois que l'histoire nous l'a montré, c'est pas très jouable. Mais par contre, être source d'inspiration... d'éléments de langage, mais dignes de ce nom, comme parce que maintenant, éléments de langage, je veux tout dire et rien dire, mais d'éléments d'intelligence qui peut être combiné à d'autres choses. Et voilà, quoi. Je pense que là, le mouvement anarchiste a un rôle à jouer. Quoi.
Ah oui.
Moi, je suis assez d'accord
aussi,
avec ça.
Je pense aussi. Oui,
je pense que c'est plus une boîte à outils de la formation à la conscience qu'un club de foot dans lequel il faudrait adhérer. Quoi.
Et à l'autonomie.
Mais
c'est responsabilité dans la vie, dans les actions, l'engagement, etc. Oui.
Et que politiquement, en termes de parti,
Par exemple, dans les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement social très important, où au départ, l'extrême droite a mis un petit peu son pied, mais très vite a été écarté, eh bien, il y avait cette idée-là, hein, cette idée de se prendre en charge, de bouleverser l'ordre existant parce qu'il ne convenait pas à plein de gens. Il y a eu beaucoup de pauvres gens, et c'est pas péjoratif, mais de gens qui vivaient difficilement, qui se sont mis en marche à ce moment-là parce qu'ils y ont vu comme un espoir.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, Louise Michel, quand elle... C'est elle qui va développer l'idée du drapeau noir. Parce qu'avant, c'est le drapeau rouge. Hein, sous la Commune, c'est le drapeau rouge. Ça a été le drapeau des révoltes, le drapeau rouge, hein, depuis le Moyen-Âge. Alors, hormis, bon, 1831, l'histoire des canuts, mais Louis-Michel, elle va développer l'idée du drapeau noir. Elle dit, c'est le drapeau de la misère. C'est le drapeau de la misère, c'est le drapeau de la révolte. Elle va piller. Elle va emprunter du pain symboliquement avec Émile Pouget. Bon, ils seront quand même condamnés à 5 ans de prison. Pendant une émeute de la faim à Paris, de chômeurs qui crèvent la dalle. Et elle dit aussi, cette parole qui est très juste, le pouvoir est maudit, c'est pour cela que je suis anarchiste. Et elle devient anarchiste après la Commune de Paris.
Ah oui, c'est vrai que pendant, elle ne signifie pas...
On va la
retrouver dans les contestataires, mais elle
dans les barricadières, je dirais.
Et c'est Clémenceau qui va réussir à la réhabiliter, parce que lui était maire du 18e, elle était institutrice dans le 18e.
Elle était maire de Montmartre et elle était institutrice à Montmartre. Et donc, alors Clémenceau, qui va mal évoluer.
Mais au moins, il avait quand même cette reconnaissance du combat de la personne.
Il a toujours eu un œil plutôt...
bienveillant vis-à-vis d'elle.
Ouais, absolument.
Parce qu'elle a été déportée, c'est en Nouvelle-Calédonie, je crois.
Oui, en Nouvelle-Calédonie. Elle a soutenu une révolte kanak là-bas. Ah, ouais.
On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez des livres à conseiller ?
Moi, j'en ai amené un ici, qui est récent, d'un auteur qui s'appelle Gaetano Manfredonia, qui est une histoire mondiale de l'anarchie. Il fait un peu le tour de façon rapide, quand même, malgré tout. Après, il y a Jean Métron qui a écrit une histoire aussi, l'anarchie. Alors, sur l'Espagne, il y a une foultitude d'ouvrages. Sur Macno aussi, il y a des bandes dessinées, même sur Macno.
Oui, sur Macno, il y a une bande dessinée.
Plusieurs
bandes dessinées. Et sur l'œuvre de Proudhon, tu as un titre à nous... De Proudhon lui-même
Et je donne une indication parce que j'avais lu un texte il y a une dizaine d'années et j'avais gardé en référence « Ensemble, ma liberté est infinie ». C'est le titre du texte, ça, mais ce n'est pas le titre du livre. Et je ne sais pas d'où, je n'ai pas retrouvé.
Mais ça vient de Bakounine, ça.
C'est Bakounine.
Il dit « Ma liberté individuelle s'étend à l'infini », je l'ai dit tout à l'heure.
Et je n'ai pas réussi à retrouver le livre d'origine...
Il y a Dieu et l'État de Bakounine, il y a plein. Et puis sur des idées qui ne sont pas spécifiquement dites anarchistes, mais qui dérivent, par exemple, sur la critique du contrôle social à l'heure actuelle. Il y a plein d'auteurs qui, sans se référer spécifiquement à l'anarchisme, mais développent une idée issue de l'anarchisme pour critiquer tout ça.
Et toi, Stéphane, est-ce que tu as des lectures ?
Pas spécialement, mais allez, puisqu'on parlait de la. De 1870, de la Commune, Le Cri du Peuple, la bande dessinée de Tardy.
Oui, vraiment. Absolument. Excellente bande dessinée.
Voilà. Par exemple, c'était...
Excellente bande dessinée.
On voit toutes les facettes un peu...
Et d'ailleurs, il y a le roman de Jean Vautrin
tout à fait.
Qui s'appelle Le Cri du Peuple, ce qui est issu, la BD est issue.
Tardy
qui est dans nos milieux.
Moi, j'en avais trois. Donc, tu en as cité un, l'histoire mondiale de l'anarchie. Il y avait L'ordre moins le pouvoir, que j'ai adoré, qui est de Norman
Baillargeon. Oui. Qui est un Canadien.
J'ai adoré. C'est...
Très bien.
Les pétroleuses de Edith Thomas, dont je n'ai pas fini la lecture, mais qui m'a paru vraiment très, très intéressant.
Mais là, je pense que...
je pense que pour les auditeurs
et
les auditrices...
Je pense que sur Internet aussi, ils vont trouver plein de choses.
Il y a de quoi lire...
Il y a l'histoire de la Commune de Louise Michel qui est très intéressante aussi.
Ben messieurs, on va devoir se quitter.
Et puis plein d'autres.
Merci à vous d'avoir participé.
Merci à vous. Merci de votre accueil. C'était sympa de pouvoir échanger comme ça et puis d'essayer.
Merci à toi, Jacques. Bonne fin de journée. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Et à une prochaine fois sur La Bonne Question. Au revoir.
Lui, c'est lui. Et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne au
Au secours !
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.